Il y a des youtubeurs qui ont eu leur revenu baissé parce que voilà, ils parlaient peut-être d'alcool ou autre, ou même ils parlaient voilà, du langage cru. Et vu que du jour au lendemain, YouTube a désindexé, on va dire, des revenus publicitaires à la moitié de leurs vidéos, ils ont eu leur revenu divisé par 10 ou par 20. Et donc, il y en a plein qui sont obligés d'arrêter leur activité. Quoi.
Tu m'étonnes.
Même s'ils peuvent faire d'autres vidéos pour rattraper, toutes leurs anciennes vidéos, elles rapportent plus. Donc, c'est super chaud pour eux. Bon, il y a des youtubeurs qui n'ont pas été touchés parce qu'ils n'ont pas ce genre de langage. Mais il y en a pas mal. Et ben, même Pididi a été touché par un pourcentage de ses revenus baissés.
Lui, à chaque fois, c'est des titres en plus, putaclic, comme on dit, avec Oh, she's a naked girl, machin, ouais, c'est sûr.
Donc voilà, il fait des propos racistes ou autres, machin, chouette, il est désindexé. Donc,
D'accord.
C'est rétroactif, quoi, c'est un peu chaud.
Il me semble qu'ils ont changé la monétisation aussi, il n'y a pas un problème là, il y en a plein qui se plaignent en ce moment, comme quoi il n'y a plus du tout de...
D'accord, alors c'est la mise en avant je crois, qui s'est modifiée.
Enfin ils se plaignent comme quoi maintenant c'est fou, si tu veux tout gagner ta vie sur YouTube, quoi. Donc t'es obligé de faire des placements de produits, de machin comme ça, parce que le YouTube classique ne te rémunère pas. Et les gens ils sont obligés de faire du Tipeee, des machins comme ça pour avoir des dons, sinon ils ne vivent pas, et du coup il n'y a pas de vidéo, et du coup il n'y a plus de chaîne. Quoi. C'est un problème. Bon, après, moi je connais pas trop le problème, mais c'est juste que je vois les youtubeurs en parler.
Ça évolue sans cesse, il faut s'adapter et bon, gagner sa vie, c'est pas la meilleure solution. C'est une passion avant tout, ceux qui le font.
C'est ceux qui en font leur métier qui fait ça.
C'est surtout en faire un métier, c'est hyper dur. Quoi. Ouais. À la base, ça doit être une passion d'abord, tu t'amuses, et ensuite, après, peut-être que ça t'amène. Mais tout, je pense, tous ceux qui ont cherché à faire un truc. Soit ils partent d'abord à la base direct dans un truc professionnel et ça peut marcher, mais bizarrement ceux qui ont la plus grosse communauté c'est des gens qui commençaient pour s'amuser simplement. Tu prends Lee par exemple, je ne connais pas une fois, mais t'en as plein, même si à la base c'est juste un mec qui s'amuse, on sait pas du tout partir dans. Bon après il cartonne très bien. Mais ouais, ça c'est un truc, si tu penses à partir dans une optique trop sérieuse, c'est ouais, t'auras pas le même public, quoi. Ça c'est sûr.
Et après je pense qu'il y a aussi un gros taux, c'est un peu comme le jeu vidéo quand même, on se reconnaît un peu, c'est un truc un peu artistique quand même d'une certaine manière, et si on ne trouve pas son public, on va dire, si ça ne démarre pas, et ben on arrête. Donc il vaut mieux commencer en faisant que ça soit une passion où on prend notre temps, et puis si ça ne démarre pas, voilà, limite où on le continue juste pour s'amuser. Et voilà, et si ça démarre, on en fait son métier.
Voilà,
c'est un peu,
Mais monétise.
Comme ça, voilà.
D'ailleurs, quand tu peux décider de si tu veux ou pas monétiser tes vidéos, apparemment, à partir d'un certain stade, tu peux dire je monétise pas. Personne qui le fait. tu peux dire, bah non, moi je n'ai pas d'argent.
Je parle pareil avec ce que j'ai vécu. Mon premier jeu indé, c'était un projet étudiant, une espèce de prototype, ça s'appelait Nanoir, un jeu de stratégie en multijoueur sur internet, avec éditeur de niveau, tout ça. Et je m'étais amusé à le faire, c'était juste pour un projet étudiant, pour un concours de Woos Games qui était organisé par Orange. Woos Games, c'est un site qui n'existe plus, qui répertoriait des jeux flash, un peu comme la Congregate français. Et du coup, j'ai mis le prototype en ligne parce que j'avais vraiment pas le temps de travailler, la prochaine fois d'année qui arrivait, etc. Et ça a super bien marché, étonnamment.
C'était un genre de wargame en fait, c'est ça?
C'était comment?
Un wargame?
Ouais, c'était un jeu style Risk, un jeu stratégie macro si tu veux, il n'y a pas de... éviter pierre feu ciseaux à gérer, stratégie compliquée, c'est assez agressif en fait. Ouais. Il faut tout le temps attaquer ou capturer et c'est que ça.
Voilà. Et ça plaît en général.
C'était ultra simple, c'était mon prototype, je devais rajouter plein de features mais j'ai mis que ça. Et c'est amusé à faire mais ça a super bien marché.
Comme toi, tu dis ça?
Ça a super bien marché.
J'aurais vraiment dû l'exploiter mieux et gagner un peu plus d'argent. Parce que beaucoup de personnes m'ont copié en fait. Beaucoup. Et du coup, j'aurais rien à mais bon.
Quand t'as une bonne idée, c'est toujours ce qui arrive. Ça, c'est. Même dans le jeu vidéo. Surtout dans le jeu vidéo. Hein, tous les open world, là, ça fait 10 ans qu'on se bouffe des open world, et c'est « Ah, ça marchait maintenant, on met que ça partout !» Résultat, ils s'étouffent et les jeux indépendants prennent de l'ampleur.
C'est... Mais on les voit venir, les jeux qui vont être copiés, c'est assez affolant.
Ouais, tu sais ce qu'on veut.
48, Crossy Road, le style ouais. Crossy Road, 3D isométrique, Bob Voxel. Maintenant, il n'y a que ça.
Oh, le nombre de Voxel, bac à sable, les trucs aussi, ouais, c'est ça. Ça inonde le catalogue Steam. Ouais. Bon, donc du coup, parlons un peu plus de vous, du coup. Donc, Benoît, toi, tu nous as fait Enigbox.
C'est ça.
Et toi, Alexandre, tu nous as préparé
Machiavelin.
Alors, un petit récap, c'est quoi ces jeux? Allez-y.
Alors, Enigbox, en fait, c'est un jeu de compilation d'énigmes dans lequel on utilise des fonctionnalités, des features de ton téléphone pour résoudre des énigmes. Donc ça peut aller utiliser les boutons du volume, mettre le téléphone à lumière dans sa poche, le tourner dans tous les sens, ouvrir une application, etc., etc. Il y a énormément de capteurs qui permettent justement de s'amuser avec ce téléphone et de créer des énigmes. Voilà, le principe c'est « think outside the box ». On n'a pas de traduction littérale pour cette expression anglaise. Donc il y a 56 énigmes disponibles sur iOS pour l'instant et bientôt sur Android. Je suis en train de travailler dessus.
D'accord, bah iOS, c'est bien. Déjà, c'est une bonne partie. Donc, et t'as bossé c'est tout seul, t'as
fait
ça?
J'ai bossé tout seul, en fait. C'est une espèce de barreau d'honneur que j'ai fait. Je voulais absolument faire ce jeu sur mobile. J'avais fait une version Flash dans le même principe, qui avait super bien marché. Et j'avais contacté un éditeur. Et on m'a dit, oh, non, ça marchera pas, c'est trop un marché de niche, c'est trop spécifique, etc. Mon ancien éditeur sur lequel j'avais fait éditer Enanoir mobile s'était planté et je me suis dit cette fois-ci je vais le faire tout seul. Donc, si tu veux, j'ai une mauvaise expérience, j'ai voulu éditer et développer tout seul. Ouais. Avec zéro budget en 3 mois.
Du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de cette expérience?
C'est dur. Faut pas le faire, mais bon, d'un autre côté, quand on n'a pas trop le choix, on le fait, on essaye. C'est une espèce de laboratoire finalement.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est... Voilà. Ok, d'accord. Bon, petit résumé. Et du coup, toi, donc Machiavelin, ouais. Donc c'est, vas-y, explique.
Donc on joue le rôle d'un méchant film d'horreur. On doit construire son manoir et élever ses monstres. Et surtout, on doit tuer nos victimes en respectant les règles des films d'horreur. Bien les tuer une par une, tuer la vierge en dernier et surtout pas tuer le chien. Donc c'est un je dis que c'est un mélange entre Prison Architect et Dungeon Keeper.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est un jeu de simulation où on construit tout et on fait en sorte que nos monstres soient contents, ils mangent bien des victimes.
Ils mangent bien des victimes. Donc il y a un parti pris comique à fond d'ailleurs dans ton jeu. Voilà. Ça c'est un des points forts, moi je trouve, ce parti pris comique. Vas-y.
On est toujours. Enfin, moi, notre jeu précédent aussi c'était un truc un peu déjanté. Et là, on aime bien les films d'horreur qui se prennent pas au sérieux, ouais. Scream, voilà, qui jouent un peu sur les stéréotypes des films d'horreur. Et là, on est à fond dans notre jeu et on fait en sorte que les victimes soient un peu stupides, qu'elles vont se séparer.
Même graphiquement, visuellement. D'ailleurs, ça ressemble vachement à Don't Starve. Ouais, ça va plaire aussi.
Tu mets beaucoup de références.
On met des références avec les méchants qui ne meurent pas tous. Enfin, nos monstres qui ne meurent pas tout de suite, qui peuvent revivre comme dans les films, ouais. Où on les tue et on ne sait pas qu'elles vont revivre. Il y a tout un tas de stéréotypes là-dessus.
Donc bon, deux jeux différents, on va dire. C'est bien différent. Pour le coup. Toi, tu as eu des prix aussi, tu as eu deux prix, je crois.
Oui, c'est ça.
C'est innovatif.
C'est à Singapour, effectivement, Casual Connect.
Représente.
Ouais. Et du coup, Most Innovative Game et prix du jury aussi. J'étais vraiment étonné. Je suis allé vraiment pour des vacances en fait.
Et en fait,
ils cherchent l'originalité et ils sont tombés là-dessus.
Mais l'idée d'ailleurs était venue d'où, toi, de faire des jeux comme ça.
Alors c'était en 2009,
c'est
dans une nuit.
C'est ton idée qui a fait que c'est, ouais. C'est un truc novateur et tout, tu vois, parce que l'idée est intéressante.
J'aime bien les jeux un peu conceptuels. Ouais. Un pote m'avait fait tester un jeu à l'école de jeux vidéo, pardon. Il n'y a pas de but du jeu, c'était une espèce d'application, tu avais un viseur, un personnage attaché sur un poteau d'exécution, tu tirais, tu pouvais le tuer. Mais c'était terminé, c'est-à-dire c'était irréversible. Quand tu relançais le jeu,
le mec était
déjà mort, tu pouvais rien faire. Donc
Donc voilà, ton choix finalement, il est. Je me suis dit, c'est malin, il a utilisé la sauvegarde et tout. Pourquoi pas faire une expérience aussi dans le même type. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas aussi jouer avec l'horloge inter du téléphone, enfin, de l'ordinateur carrément.
Ouais, t'as pris vachement de recul.
Ah, tiens, pourquoi pas jouer avec le navigateur, le fermer, l'ouvrir, je sais pas, redimensionner les fenêtres, tout ça. Et puis je suis parti là-dessus.
Mais ça, c'est bien, hein, c'est l'esprit créatif.
Mais j'ai pas dormi de l'année. Mais c'est peut-être le moment le plus excitant finalement quand tu balances tes idées.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui en plus on n'y pense pas, mais enfin si on y pense à moitié. Mais... Qu'est-ce que c'est, on peut tout faire avec ça. On a tout, on a un gyroscope à l'intérieur, on a une caméra, ça va faire température, mais c'est instrument de musique. Donc non, c'est vrai, c'est une super idée d'avoir pensé à faire ça, tu vois. Et c'est pas pour rien que tu as eu tes fiches, je pense. Donc, ouais.
J'aime bien le côté hacking, exploiter, détourner les fonctionnalités qui sont pas faites à la base pour jouer. Comme le volume ou le téléphone, tu vois, c'est complètement aberrant dans un jeu vidéo.
Mais d'ailleurs, pour le coup, ton idée, je trouve qu'il y a un truc qui est bien, moi, je trouve, qui te donne un point fort vraiment très important. C'est que c'est moins de niche, tu vois. Par exemple, j'adore ton jeu, bah, Camilla, je l'adore, tu vois, c'est génial. Même moi, tu vas passer la version, j'ai joué, je me suis éclaté. Mais c'est vrai que c'est plus de niche, tu vois. Et lui, il peut plus toucher les ménagères avec son jeu.
Non, c'est vrai. Ah,
il peut toucher plus de monde aussi.
Tu peux toucher tout le monde, tu peux toucher
les enfants d'ailleurs. Les enfants sont super forts à ce genre de jeu parce qu'ils sont complètement désinhibés. Ils n'ont pas peur de trifouiller le téléphone, de faire n'importe quoi. Carrément.
Non, mais donc, du coup, vous n'avez pas du tout la même cible en fait dans votre marché. Et ça, c'est aussi c'est très intéressant. Et
pour l'anecdote, je suis beaucoup basé sur ce qu'a fait Hideo Kojima en matière de casser le quatrième mur, exploiter un peu toutes les fonctionnalités du support.
Kojima,
la scène de Psychomantis de Metal Gear Solid 1, par exemple.
Ouais.
Tu te rappelles la scène où. Donc c'est comme Mantis, lit dans ta carte mémoire, fait bouger ta manette, oui. Il faut débrancher la manette et la mettre sur le port numéro 2, il éteint ta télé, avec un petit idéo en haut à gauche pour montrer que c'était une blague finalement. Et je trouve ça super malin et ça a marqué tous les gamers.
Et ça t'a inspiré
énormément. Ouais. Il n'y a pas que ça. Hein. Dans Metal Gear Solid 3, tu pouvais changer l'horloge interne pour tuer un boss. Tu mettais genre. Plusieurs jours après le jour, quand tu as commencé la partie, et le boss mourait de vieillesse. C'était un vieux sniper rentré dans une jungle.
Ah, okay. J'avoue, moi je suis pas trop joué au MGS, j'étais plus Nintendo, mais.
Mais il faut. T'as joué, tu vas jouer.
Non,
tu vas jouer. Non. Mais il faut y jouer. Et Kojima avait sorti en 89 sur Snatcher un jeu sur disquette, on m'a raconté ça. Et effectivement, je fais mes recherches et c'est vrai. Il voulait absolument mettre une disquette dans laquelle il y avait une espèce de capsule faite en matière odorante, dissiper une odeur une fois que la disquette chauffait. Donc dans l'ordinateur, elle chauffait la disquette. Et il y avait une espèce d'odeur de sang pour faire ressentir l'odeur du sang de scène de crime. Et je trouvais ça génial. Alors ça pouvait bousiller un ordinateur parce que sa force de liquide pouvait couler apparemment. Je trouvais ça génial. Voilà. C'est fou.
Merci.
Je trouve ça génial.
Ah, j'avoue, c'est vrai. Et donc du coup, tu as rassemblé toutes ces idées, tu as réfléchi à comment tu pouvais conceptualiser ça en un jeu, tu as pensé au mobile, tu t'es dit tiens, plein de fonctions, ça peut tout faire, ça fait chauffe-patate, friteuse et tout, je vais m'occuper de ça, on va s'occuper du téléphone et on va faire le jeu là-dessus. Bah, c'est pas mal.
Voilà.
C'est cool. Okay. Et donc bon, vas-y, donc Alexandre, du coup, tu veux
précisément, tu peux en parler
L'idée pareil.
L'idée pareil.
T'es venu,
À la base, ma copine, voilà, elle a toujours peur de jouer faire un jeu vidéo avec elle, plus ou moins, mais elle osait pas. Elle est une dessinatrice de BD, elle s'est dit « je suis pas capable de faire un jeu vidéo parce que c'est pas mon truc ». Alors que moi, j'étais toujours convaincu qu'on peut avoir beaucoup de transversalité entre les artistes qui font de l'illustration classique. Ouais. Je pense qu'on peut utiliser leur talent pour faire du jeu vidéo. Et maintenant ça devient vachement à la mode, d'avoir des rendus un peu aquarelles, on voit maintenant de plus en plus, voir d'autres différents rendus dans les jeux vidéo 2D. Et pour moi c'était évident que des artistes là. Et donc j'ai réussi à la convaincre à faire une game jam qui s'appelle la London Dairy. Voilà, et donc pendant 3 jours, on a fait un jeu qui s'appelait The Villain's Rules. Même si le principe était pareil, il a plutôt plu. Alors c'est un petit jeu où... Enfin c'est un petit jeu forcément des game jam, mais voilà, l'univers était déjà là, on avait nos personnages et on devait... C'était plus un jeu, on va dire, d'action où on avait un groupe de victimes qui entraient dans une maison et on devait placer des pièges et les déclencher au bon moment. Les déclencher pour séparer les victimes, parce qu'on ne peut pas les tuer à plusieurs, et après les tuer une par une. Donc on avait le groupe typique avec des cheerleaders, voilà, les footballeurs américains, et voilà, le geek, il y avait un lit à un moment donné, justement, on ne pouvait pas tuer la vierge, donc il fallait la faire passer par le lit avec un autre personnage.
Ah oui, tu dois les tuer tout seul. S'ils font l'amour, s'ils sont s'ils ont du sexe, tu peux les tuer les deux en même temps, parce que c'est intolérable.
Voilà, exactement.
Non, ce parti comique, il m'a trop fait rire. Genre courage intestinal, ça m'a fait mourir d'ailleurs aussi. Genre, j'avais besoin de manger moins 20% par jour. Ça m'a fait rire.
Donc,
il y a beaucoup de
gens, un peu décalé.
Même
sans prendre au sérieux. Ouais.
Ouais, c'est vrai. Moi j'ai trouvé franchement, ça m'a vraiment fait penser à Don't Starve. Dans le côté, alors pas du tout en inspiration ou quoi, mais graphiquement, le fait qu'il y ait les monstres, ce parti plus comique à fond, tu vois, et cette isométrique avec tes petits persos qui déplacent, bon, c'est quand même compliqué, moi ça me l'air.
En fait, on essaye d'avoir un côté dark, mais un côté amusant. C'est ça un peu.
Ça casse tout.
Ouais, ça s'oppose pas forcément. Mais c'est pas facile de les mener, c'est pour ça que ça donne un peu, voilà.
Et justement, mais c'est pas facile, voilà. Et toi t'as réussi, je trouve, dans ton jeu. J'ai joué 3 heures, mais...
Ma copine,
oui. J'ai joué 3 heures, mais franchement, graphiquement, t'as une DA géniale.
Ouais, ouais.
Je trouve que ta direction artistique est sublime. Tes monstres, ils ont tous un truc, tu vois, il y a une passion, on sent cet amour, et on sent que le jeu est bien, j'avoue, c'est bien sympa. Mais ouais, c'est un peu comme Forte et tout, tu vois, je sais pas, il y a un petit jeu qui marche pas mal sur Steam aussi en ce moment, ça s'appelle Forte. Mais tu vois, c'est des petits jeux qui sortent de nulle part, tu vois. C'est des petits soldats, ou c'est un tour en défense, entre guillemets, mais un duel. C'est-à-dire que chacun a sa tour, et tu t'envoies des missiles de le porter, tu vois, avec des burst, mais chacun a son camp. Et donc du coup, bah, ça se tire dessus. Mais c'est des petits jeux, je suis sûr que le type, il devait se dire, ouais, bon,
ça va pas marcher.
L'achat, il est dans le top des ventes d'estime. Quand un jeu est bien. Ouais. Après, il y a plein de bons jeux, malheureusement, c'est la tristesse, il faut le dire. Il y a plein de jeux qui sont super, sur Steam et ailleurs d'ailleurs, qui rentrent dans les oublis complètement. Ça, on peut en parler aussi. C'est un peu un souci. D'ailleurs, tu bossais chez Ubisoft d'ailleurs.
Oui, à une époque, ouais, tout à fait.
Tu peux raconter un peu cette période?
Ben, je bossais sur Just Dance. Donc c'est pas moi, j'ai fait aussi d'autres boîtes avant de jeux vidéo, beaucoup plus petites, beaucoup plus à taille humaine, et ça change quand même pas mal, c'est une plus grosse machine. Just Dance, ça paraît pas si gros, mais c'est juste une tempête. Parce qu'en fait on fait un Just Dance français, mais il y a un Just Dance spécial pour les Japonais, il y a des équipes dans 5 pays différents, ça fait 200 personnes, c'est un truc de monstrueux parce que voilà. Il n'y avait pas beaucoup de programmation, mais en même temps, nous, on n'était pas beaucoup de programmeurs. Moi, je suis pas codeur, donc la pression était toujours. Mais c'est intéressant parce qu'on parle avec des Italiens, avec des Anglais, et en permanence, c'est cosmopolite. Et on se spécialise aussi beaucoup plus. Moi, j'avais un peu de mal là-dessus, parce que moi, s'il y a du boulot, on va dire, qui que soit, je peux le faire. Alors que là, limite, il faut que ce soit que le spécialiste qui le fasse. Et ça, j'ai du mal. Donc moi, dans l'équipe boîte.
Plus t'en es dans les grandes.
Plus dans les grandes boîtes, plus on cloisonne, on va dire, les choses. Donc dans les petites boîtes, voilà, il y a du boulot. Moi, je sais que sur ma partie, j'ai un peu moins de boulot. Je vais donner un petit coup de main, etc. Alors que là, c'est pas forcément. C'est une section qui a beaucoup de boulot. Ils vont beaucoup, beaucoup bosser. Et ceux qui ont moins de boulot, et ben, ils vont être plus relax. Moi, j'avais du mal à voir les autres travailler, pas donner de coup de main et à me spécialiser, pas faire assez de choses différentes. Ouais, je crois que quand on est un D, on fait du game design.
Oui, salut. Bonjour. Donc toi, c'est
Vincent Spiral.
Vincent Spiral.
Squad.
C'est
ça,
Squad.io. Donc on parlait vite fait avec Alexandre.
chacun. Donc toi, c'est quoi Dio? Donc si tu m'as dit, c'est...
je fais une petite...
Donc c'est donc un shooter isométrique arena, ça?
C'est ça.
Flash game.
Voilà, tout play. Exactement. Alors c'est pas du flash, c'est du WebGL.
C'est... Ah, voilà. Ça c'est le truc aussi qu'on va savoir, parce que moi je connais le version flash. Quand j'ai lancé le jeu, je me suis dit, bah c'est du flash. Mais c'est quoi la différence?
En fait, c'est du HTML5. C'est fait avec Unity. Codé en C#. Et derrière, eux, ils ont des outils en gros qui vont tout traduire le jeu en JavaScript. Donc on ne fait pas directement nous en JavaScript.
D'accord, et t'es tout seul là sur ton...
Non, on est une équipe de 5-6 personnes.
D'accord, okay. Donc toi 5-6, tout seul, et deux. Et leur place en studio, c'est, tu m'as dit,
Wild Factor.
Wild Factor. Et c'est avec ta femme que t'as créé ce studio.
Ouais,
alors.
Exactement. Ouais.
Et d'ailleurs, ben, du coup, on reviendra avec vous. Tu nous as dit que ta femme t'a quitté.
Ubisoft, moi je voulais faire du jeu indé, même un peu en entrant à Ubisoft.
Tu savais déjà que
savais que j'allais faire ça. Et donc j'ai fait un premier jeu mobile qui s'appelait Duck and Roll. C'est un jeu très casual qui n'a rien à voir. C'était un jeu de musical. On avait un canard et on devait faire des mouvements sur le téléphone suivant une musique dans le rythme. Donc, ça m'a fait la main.
Jeu de rythme.
Voilà. Il n'y a pas si mal marché.
Ça marche pas trop mal, le jeu de rythme. Ouais. Il n'y en a pas tant que ça, c'est ça aussi.
En fait,
c'est difficile.
C'est aussi un marché de niche. C'est-à-dire que on va avoir, là, on va même marché de niche parce qu'on va avoir très vite capé au nombre de joueurs. Ouais. Donc, et même les jeux musicaux, souvent les mêmes les joueurs très s'attache plus à la playlist qu'au jeu lui-même. Si on a des gros titres, limite, c'est ça qui va motiver plus les gens à jouer, même que le jeu soit moins, plus ou moins bien, la playlist va motiver les gens à jouer.
Ouais, c'est vrai, que c'est pour les Guitar Hero, ça marche bien. Le nombre de Guitar Hero, il y en a qui n'ont pas marché parce que la playlist n'était pas intéressante. Il y a la note qui ont cartonné parce que les musiques étaient juste folles. Ouais.
C'est un gros
donc, facteur. Non, toi, tu as décidé de partir de Ubi juste parce que été attiré par.
Ouais, mais je voulais en faire un jeu. Je voulais faire un peu un peu plus créatif, de manière. J'étais très codeur.
Et tu n'aimais pas ce côté formaté un peu et...
Ouais, moi j'aime bien tout faire. Donc je suis frustré quand je fais des outils. J'aime bien faire des outils parce qu'on a le contact avec les gens. Mais là aussi, voilà, quand je fais le jeu. Comme tu vois, j'essaie de te demander ce que t'en penses. J'aime bien avoir des retours et des allers-retours sur ce que je fais directement. Et là, on fait du game design, on fait du marketing, ouais. Malheureusement, on fait de la comptabilité, on fait un peu de tout. Et moi j'aime bien apprendre des nouveaux trucs.
Et ça, pour le marketing, d'ailleurs, on va poser la question à chacun d'entre vous. Bah tiens, on va commencer par toi. Comment t'as fait, toi, au niveau du marketing pour lancer un flash game? Parce que, bah, on sait qu'Alex il est sur Steam, donc il aura une certaine visibilité parce qu'il a Greenlight. Mais toi tu fais quoi?
Nous, on a signé un contrat avec Uniclip.
Ah d'accord, c'est une société de téléphone.
Non, ils font surtout à l'origine, lors d'années, des jeux en web justement. Donc ils ont une grosse plateforme sur laquelle ils ont plein de jeux et du coup une grosse visibilité. Donc oui, c'est eux qui nous apportent les jeux.
D'accord, ouais, ça me dit quelque chose. Donc, et donc du coup, ouais, ça te donne une
possibilité de...
Et après, tu essaies de faire de la pub classique, quoi, en mettant le lien du jeu à droite à gauche.
Voilà, on fait un petit peu de cross-promo, quelques concours Facebook, Twitter, des petits trucs comme ça. Mais voilà, enfin à côté, nos petits efforts sont un petit peu ridicules, entre guillemets, par rapport à ce qu'ils font. On le fait quand même, c'est pas inutile dans le sens où de la création de communauté en fait quand même.
Ouais.
Donc on a une stagiaire en ce moment là qui s'occupe de tout ce qui est community management, qui vient de mettre en place un Discord, les gens ils viennent
ça, c'est une
parler
bonne,
avec
ça.
Nous, ouais. Donner des commentaires sur le jeu. C'est assez intéressant et ça fait vraiment vivre le jeu.
Ben, ton jeu, ben, moi il y a un truc qui m'a plu, je pense que c'est ton point fort de ton jeu, c'est qu'il est gratuit, il est flash, on va dire. Et du coup, ben, n'importe qui peut y jouer avec un PC.
Voilà, mais en fait, ça c'est vraiment c'est le principe des jeux .io, voilà. C'est que c'est hyper accessible.
T'as même pas besoin de créer un compte, il y avait un truc guest.
C'est oui, voilà.
Tu peux te mettre guest.
Exactement.
Tu fais guest, je joue.
Et encore, on est en train d'améliorer ça en fait, parce qu'on a 25% maintenant de joueurs logués. Et voilà, on se rend compte qu'il y a plein de gens, ils ont juste envie de faire une partie comme ça en 5 minutes.
Ouais.
On cherche à améliorer aussi l'expérience justement des guests qui sont la majorité de notre trafic.
Ouais, tu m'étonnes.
Non, non, mais c'est vrai.
Moi, j'ai joué jusqu'au niveau 10, tu vois, je me suis abusé à déglinguer. C'est un bon défouloir, hein,
en ouais, voilà. Et en même temps, ça reste assez casu parce que justement, c'est ouvert à tel ouais, monde que c'est pas forcément des gens qui.
C'est ça, vraiment des gros gamers. Ouais. Ton public, voilà, je pense que c'est pas le public de gamers, c'est plus le public.
Exactement.
De
jeunes et nous, on est, je dirais même, limite sur la tranche.
En forme.
Il y a certaines choses qui sont limite pas assez casu ouais. Dans le jeu. Mais globalement, ça marche bien, on est quand même assez contents. On a des wars sur un jeu casu. On a des mecs qui sont venus de 300, s'y attendaient pas.
C'est ah ben c'est pas mal, parce ouais. Que ça, du coup ça ramènera aussi
un peu
corps,
un peu ouais, qu'il a... Bien ouais. Sûr, ouais. En fait chacun il trouve un peu son compte dans le genre de jeu, mais c'est un peu comme Clash Royale en fait. Enfin, on n'a pas du tout un...
Non mais je veux
pas dire qu'on est un gameplay proche de Clash Royale, mais ça a été une grosse inspiration sur... voilà, c'est un jeu qui arrive à toucher tout le monde, où tu peux être vraiment fort, hardcore gamer, skillé, essayer d'aller vraiment haut dans les classements, tout comme... Tu peux jouer avec des gens qui sont aussi débutants que toi ouais. Et malgré tout t'amuser. Donc le but c'est vraiment de faire une expérience où tout le monde trouve un peu son compte.
Mais ce qu'il y a bien aussi, c'est que tu as un peu, je trouve, trouvé une solution pour. Bon, ça existe dans beaucoup de jeux, mais dans ton arena shooter, le premier, je vous le sais, il a la couronne sur la tête. Voilà. Donc ça c'est pas mal parce que du coup, si tu as un mec qui est super fort dans ton jeu, qui domine la game et qui tue tout le monde, et ben, il va avoir la couronne sur la tête et du coup tous les autres joueurs vont se retourner contre lui. Et moi je m'amusais, j'étais là, bon ça va, c'est pas trop compliqué le jeu. Et là je vois que j'ai la couronne et tout le monde qui se met à m'attaquer et tout. Et c'est pas le même jeu après, hein. Tu vis pas le même jeu.
Voilà, et j'avais même lu, il y a des postes stratégiques, il y a un mec qui écrivait alors, essaye de rester deuxième. Et
ouais, c'est vrai, mais tu m'étonnes, c'est
mais oui, mais en fait, on a aussi quelque chose dans le jeu qui est peut-être d'ailleurs un peu fort, faut qu'on diminue, parce que tu l'as peut-être pas ressenti, mais plus tu tues des gens, tu gagnes en points de vie en fait. Et en fait, t'as un petit peu tendance à dominer. Donc c'est pour ça qu'on voulait contrebalancer ça entre t'envoyer tout le monde dessus quand même.
Ah c'est possible. Enfin moi je me suis bien amusé dessus, j'ai pas trop fait gaffe.
Tu gagnes de la vie quand tu tues des gens alors.
D'accord, ok.
Alors on voulait un peu garder ce principe qu'il y a dans pas mal de jeux vidéo quand on prend genre un guerrier pour ce qui est le plus connu. Ouais. Où, plus tu joues, plus tu grossis en
tu
fait.
Tu penses l'effort du mec.
Ouais. Exactement, et qu'en fait qui est. Parce que c'est des jeux qui n'ont pas un vrai but en soi, enfin c'est sans finalité, à part, oui. À part par le metagame, voilà. En fait tu t'amuses, tu joues, tu fais du score, tu fais du level, tu gagnes du nouveau contenu, tu vas le réessayer en jeu, etc. Et du coup, pour faire quand même un petit peu vivre le jeu, donc on avait décidé d'être le premier avec la couronne. Et
mais il est complet, moi je trouve.
Justement, mais voilà, on manque un petit peu armes, de finalité. Alors maintenant qu'on a rajouté aussi des leaderboards, ça donne des motivations, et donc t'as des gens qui encore plus. Mais voilà, et puis là on rajoute des modes de jeu, donc là on a un petit mode un peu, on va dire, bonus qu'on est en train de tester où tu gagnes des petits acolytes, par exemple tu progresses dans le jeu,
ah ouais.
Qui tirent automatiquement sur la
porte,
tu vois, c'est assez rigolo. Et en fait c'est des modèles qu'on avait déjà parce qu'on a un peu parti dans une direction avant de trouver ce qu'on voulait faire.
Mais c'est pas bête ça, de rajouter un item en plus de l'arme.
Et voilà, et là on est en train de travailler sur un mode par équipe.
Ah ça va être super, ça par contre ça va être super. Parce que ça peut être tout
sur on a compensé à d'autres modes fun, peut-être football, des trucs comme ça. Après la difficulté aussi c'est pas de trop diviser la base de joueurs.
Mais t'as petit. Enfin moi j'y suis allé pour tester le jeu, j'ai eu aucun problème à jouer, il y avait déjà.
Non il y a beaucoup de monde mais on a déjà pour l'instant deux maps, deux modes de jeu, donc on divise par 4, plus on a 3 niveaux de matchmaking, donc 4x3 à 12, plus on a des serveurs par continent. Donc voilà, en fait.
Ça, tu les as, du coup, les serveurs, tu t'as fait comment tu les as.
Alors, on utilise Photon.
Je suis pas trop technique.
En gros, c'est une solution toute faite. Donc, t'as pas toutes les serveurs, t'as juste un abonnement par mois et ils te gèrent.
D'accord.
Donc, t'as pas d'entretien, du coup, de serveur, ni rien. Enfin, si ce n'est le prix de l'abonnement, mais c'est raisonnable et tout ça, c'est notre éditeur privé.
D'accord.
Mais ça nous permet voilà, d'avoir 15 000 jours par jour sans s'en préoccuper. Parce que moi, je suis le seul codeur dans la boîte. Donc, et en plus, je suis pas spécialisé ni en réseau ni en serveur. Donc, même si je me débrouille, ça ferait trop cher le travail si j'avais tout le monde en plus. Donc, ouais. Donc, on est très content de passer par un plugin externe qui fait du boulot.
Tu m'étonnes. Ok. Du coup, donc,
ouais.
Benoît, toi, en termes de marketing, tu t'y es pris comment?
J'essaie de suivre un peu la même procédure que mon précédent éditeur avait fait pour mon précédent jeu. C'est-à-dire récolter les adresses des journalistes, les contacts internes, tout ça, faire le dossier de presse, le kit de presse, les trailers, tout qui va bien. Mais avec zéro budget, donc, c'est pas pareil. Mais je l'ai fait, voilà. J'ai contacté un peu tous les journalistes, j'ai fait un site, tout ça. J'ai eu quelques retours, mais c'était en plein mois de juillet à la sortie de Last of Us, donc on peut passer inaperçu. Il y a quand même quelques journalistes qui ont répondu, tu vois, mais En général, ceux qui ont testé le jeu, ils ont adoré. Sinon, après, qu'est-ce que j'ai fait?
Alors, ils t'auraient pas filé.
Ouais, non, je l'ai dit.
C'est pas aussi de votre game.
Ouais, mais en fait, en général, c'est ça, il y a une espèce d'appréhension quand même sur ce jeu, parce que c'est conceptuel.
C'est mais comme c'est conceptuel, les gens ils s'attendent tout de suite à. Voilà, ça c'est le souci. C'est que si tu prends un truc qui est déjà plus apprécié, genre un RPG, un machin et tout, t'auras aussi des gens qui vont essayer de enfin, les publics de niche qui vont t'en bloquer, quoi. Mais bon,
non. Pour un trailer assez convaincant aussi, le truc que j'avais fait était assez abstrait, je voulais pas spoiler les énigmes. Donc je suis resté un peu comment dire, une suggestion. On voyait les gens jouer en fait, donc on voyait pas vraiment ce qui se passe avec eux. On en voyait un petit peu, mais quand tu voyais les screenshots du jeu, quand tu voyais les screenshots du jeu, tu ne comprenais pas le principe. Mais en y jouant, tu comprenais tout de suite.
Ouais.
Il fallait manipuler en fait le téléphone.
D'accord, oui. Oui, parce que c'est vrai que de base, tu donnes le téléphone, tu vois, tu dois te débrouiller pour savoir quelle fonction du téléphone va t'aider à résoudre l'énigme. C'est ça en fait le vrai.
C'est ça. Ouais. Ça se rapproche d'une escape room.
Oui, c'est vrai.
Sauf qu'il n'y a pas d'univers.
Ouais.
Ça reste très
sur ton téléphone.
Il y a, ouais, voilà, il y a un symbole et voilà.
D'accord.
Il n'y a pas vraiment d'univers.
C'est un système d'indices d'ailleurs, parce que moi, j'ai pas testé ton jeu, du coup, j'ai pas pu tester.
Oui, j'ai repris le même principe que j'avais fait sur mes précédents jeux d'énigmes. Ouais. Finalement, il y a deux indices qui ont aidé, donner des indices, on va dire.
Oui, voilà,
pour plus ou moins précis, ouais. Comme dans des escapes finalement, escape room. Tu peux les débloquer avec un achat in-app. Ou en partageant sur les réseaux sociaux.
D'accord, ok. Donc tu as fait ta vie des achats in-app aussi hein.
Oui, j'en ai mis. Okay. On m'a conseillé d'en mettre. Effectivement, ça marche bien.
Non, mais ça marche bien de façon de base.
Moi, je suis vachement généreux. J'en donne 18 comme ça. Les mecs, ils sont en temps pour payer un indice 1 euro. Moi, 18, t'en as pour 1 euro, t'en as pour tout l'argent.
Ça va.
Après, ça risque de changer. Je vais pas être aussi dur que les autres développeurs qui font payer assez cher les indices. Parce qu'au final, le jeu est quasiment gratuit.
Mais du coup, il est quasiment gratuit, concrètement. C'est
si tu ne veux pas payer, tu ne payes pas, tu peux jouer.
Ah voilà, donc tu as deux versions. Tu as une première version qui est gratuite, qui nous permet de tester le jeu.
En fait, tu n'as qu'une version.
Ah,
c'est... Mais il y a une in-app qui débloque tout, ou alors voilà. Tu regardes tous les jeux.
Okay. C'est comme Mario Run, en fait.
Mario Run, si tu veux finir, il faut payer, dans tous les cas.
Oui, voilà, tu peux pas.
Ah, t'es sûr, là, tu si peux. Tu reviens tous les jours, effectivement, tu as des énigmes gratuites.
D'accord, tu
donc,
peux
ça
débloquer.
Ça permet d'avoir la jouabilité de commenter la rétention. Ah oui, la rétention c'est important.
Ok. Et sinon, question peut-être un peu générale, mais bon, importante quand même. Vous êtes tous du coup des développeurs indés, on est d'accord. Et c'est quoi pour vous, hein, être indé?
Alors, je sais pas, selon la définition, si je peux encore me considérer comme indépendant. J'ai monté un petit studio, hein,
petite entreprise, pour moi, c'est un indé.
Pour moi, un indé, ça veut pas dire que tu n'as pas le droit de signer avec un éditeur, parce que je suis plus indé, tant pis. Ça veut dire, on va faire les jeux qu'on aime et essayer de vivre de notre passion, on va dire.
C'est bien résumé, j'avoue.
Ouais, ça c'est fou. Ouais, je me considère comme un full indé, parce que j'ai fait ça tout seul et j'avais pas de budget.
Oui.
Tu veux, on est vraiment pas plus indépendant. Mais après, effectivement, les petits studios qui démarrent avec leur petite équipe, qui bossent sur leurs propres idées et qui vont voir ensuite un éditeur, j'imagine que l'éditeur vous a pas trop embêté sur le gameplay, sur les questions, peut-être le niveau de rétention, en tout fait, ça, les mécaniques.
En fait, nous, c'est notre deuxième jeu. On a fait un premier jeu, pour le coup, vraiment indé. Bon après, le jeu était bien niveau gameplay, niveau graphisme, les gens adorent. Ça c'est le point positif, le point négatif c'est que on était un artiste et un programmeur. Et ça c'était les deux domaines qu'on a bien su couvrir. On était aussi, on avait pris une notion de comment vendre un jeu, comment gagner de l'argent avec un jeu. Bien sûr, on était un petit peu à la ramasse. Donc c'était une expérience super enrichissante parce qu'on a fait plein de trucs. Et du coup, on avait essayé de le montrer à ses éditeurs, on était à la Paris Games par exemple. Effectivement, c'est pas un truc qui leur plaisait du tout, mais ils nous disaient pourquoi à chaque fois. Et voilà, du coup on a un peu privé de vent avec le deuxième jeu, on l'a montré en stade de proto des éditeurs. On a un mini-clip qui a eu un coup de cœur en fait, et puis c'est rien. Le jeu en plus aujourd'hui n'a rien à voir avec le proto qu'on a montré, mais bon, ils avaient bien aimé déjà l'idée de départ en fait. Ils ont dit on veut que vous veniez sur notre plateforme. Après, nous on était, ils nous ont rien imposé, mais c'est peut-être même plus nous qui étions preneurs de conseils.
Bon, tu t'es servi de ça du coup
Mais en fait, on a une relative liberté, c'est plus on leur pose des idées et ils nous font « Ah ouais, c'est super, vous devriez le faire. » Voilà, ça arrête là la relation, on n'a vraiment pas de pression particulière. Sinon, on fait…
C'est cool,
après,
c'est
eux, ils ont oui, après, eux, si tu veux, ils n'ont pas investi dans le jeu. C'est-à-dire que le deal, c'est… ils nous offrent juste de la visibilité.
Vous avez tout fait.
C'est-à-dire que, exactement, c'est-à-dire que si je marche, ils sont contents, ils si prennent fait. Leur part. Puis si je marche pas, ils s'en foutent, ils en ont une centaine d'autres. Bon, voilà.
C'est une genre…
Pour moi, il y a un palier, effectivement. À partir du moment où tu reçois de l'argent pendant le développement, c'est plus d'indépendance.
C'est une commande, en fait.
Ouais. Voilà. Bah, ouais.
Alors, on va bien en arriver là, en fait, mais c'est peut-être plus pour pérenniser le silo et permettre de refaire plus confiance à faire des jeux indés aussi à côté. Mais effectivement, pour l'instant, effectivement, si on définit un jeu comme ça, on l'a rémunéré pour l'instant, rester indépendant parce qu'on n'a pas été payé pour effectuer quelque chose qu'on nous a demandé, mais on a fait ce qu'on voulait, puis on a juste essayé d'avoir une vision qui correspondait un minimum à l'attente d'un éditeur pour que oui, ils aient envie, ils ont envie d'y croire en fait, simplement.
Finalement, les éditeurs comme Miniclip, c'est plus des publishers qui vont publier ton jeu et faire l'écouter communication marketing.
Après, c'est pas plus mal aussi. Hein. Quand tu nous disais que tu galérais, vous saviez pas trop ce que vous faisiez au niveau marketing. Donc, ça a plus été d'une aide pour toi au final, peut-être. Enfin,
oui.
T'as été content.
Au final, les attentes de nos éditeurs, elles sont pas absurdes. Eux, ils voient qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui fait que je vais être rentable. Et si t'arrives à correspondre à leurs attentes, même après, si tu pars avec un éditeur, c'est peut-être que t'es quand même mieux parti avec ton jeu.
Et du coup, donc là en fait, tu as publié ce jeu, donc tu as ton propre studio, alors vous êtes 4 ou 5.
Voilà, en fait, on est deux associés.
C'est quoi ton studio? Spinbot.
Spinbot, on est deux associés, donc Adrien Carpentier et moi-même, et on a deux mecs qui bossent avec moi en freelance, hein, donc c'est un petit peu, c'est pas non plus, on n'a pas une grosse structure avec des CDI, on va bien y arriver, on a pour l'instant c'est un peu difficile, donc en fait, on a deux freelances, et voilà, et puis des stagiaires aussi.
Ok, comme ça, bonne petite équipe. Ben, comme tu disais, de toute façon, moi, je pense que le truc principal, c'est que tu t'amuses et que tu. Voilà. Toi, quand tu étais chez Ubisoft et que tu t'occupais de Just Dance, bon, c'est vrai que c'était pas exactement ça que tu avais en tête, je pense. Tu vois, enfin, peut-être ouais. Du coup, t'es parti, je pense, et tu voulais faire ce qui te faisait vibrer.
Ce qui me plaisait, ouais. Mais surtout, ouais, c'est surtout faire avoir voilà, plus la main dans tout ce qui est artistique, libérer, ouais. Voilà, libérer,
délivrer,
ouais, exactement. Alors moi je suis plus vraiment indé parce que maintenant j'ai un éditeur, donc mais on va dire j'ai choisi, en tout cas j'ai beaucoup hésité par rapport à l'éditeur, c'est un éditeur ambitieux mais qui a des accointances avec des Volver, là-bas, donc eux ils savent un peu ce que c'est que le jeu indé. Ils ont des exigences au point de vue de l'accessibilité, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'il y ait un maximum de gens qui puissent y jouer. Par contre, au point de vue du contenu, on est super libre. C'est-à-dire qu'on on avait mis des milestones avec un certain contenu. On a dit non, finalement, il vaut mieux changer le contenu, on dit pas de soucis, on change. Et ils sont là-dessus, ils sont super, super relax. Voilà. Eux, ils veulent qu'il n'y ait pas de bug et que le maximum de gens puissent jouer. Nous, limite peut-être notre cible est un peu, on est des gens un peu plus hardcore que la leur et ils veulent que la cible soit un peu plus mid-core ou voilà. C'est le seul truc, mais sinon on fait exactement ce qu'on veut. C'est ça qui est plutôt cool. Alors ça, présentement j'étais totalement indé. Et là ça change pas. Pour moi, indé, c'est surtout faire quelque chose qui n'existe pas sur le marché. Surtout ça, pour moi.
C'est intéressant limite, comme définition ça, voilà. Parce que c'est vrai que ouais. Vous prenez plus de risques aussi.
Voilà, exactement, on ne sait pas si ça marche. Ou alors on attaque une niche, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des joueurs mais qu'ils n'ont pas assez de jeux pour qu'ils soient contents. Ou on essaie justement de nouveaux concepts, etc., qui n'ont jamais été faits. Pour moi, c'est ça. Et limite, l'argent, on dit toujours limite, il faut être pauvre pour être indé. Moi, je ne suis pas forcément d'accord parce que l'argent, ça donne des contraintes, mais ça donne aussi une certaine liberté. Il y a certains jeux qu'on ne peut pas faire sans l'argent, c'est pour ça que. Il y a beaucoup de jeux de plateforme parce que c'est des jeux où tu ne demandes pas des gros budgets et on ne va pas faire un gros FPS avec.
Oui, tu ne peux pas acheter forcément le CryEngine 4 et tout.
Avec des affix de voilà, malade. Tu peux faire après, il faut que tu fasses un des choix artistiques qui sont restrictifs, on va dire, en termes de production de contenu. Voilà, donc. ça te donne de la liberté, avoir un éditeur à donner l'argent, ça te donne de la liberté, ça te donne des contraintes, et pareil, quand on est indé, la pauvreté donne de la liberté, on va dire, parce qu'on n'a pas de contraintes financières, mais on a d'autres contraintes que le manque d'argent font. On ne peut pas faire un développement de 10 ans, par exemple, si on veut. Voilà.
Mais d'ailleurs, pour le développement, du coup, toi, tu étais passé du coup, par Kickstarter, du coup, c'est ça ?
Voilà, Kickstarter, on a fait un Kickstarter. Voilà. Justement, nous, c'est un jeu quand même à très long développement quand même, on va peut-être faire 3 ans.
C'est avec ta femme, du coup, c'est ça ?
Voilà, on va 3 ans tout. Ça, c'est chaud de tenir 3 ans.
3 ans de développement du jeu.
Je pense en tout, on va finir sur 3 ans. Donc c'est chaud de tenir 3 ans
avant la première
sans
version.
Apport. 2 ans et demi avant la première version, voilà. Okay.
Donc, et d'ailleurs c'est quoi toute question
Je sais pas si je prends en tête, alors faut que je donne un ordre de grandeur, on va dire entre un an et demi.
Un an et demi,
voilà. Alors après, c'est sûr que si aujourd'hui on voulait faire le jeu qu'on a aujourd'hui et qu'on savait où on allait, ce serait peut-être 6 mois un an qu'un an, un an et demi. Parce que au début, on est parti d'un concept, puis on s'est dit ouais, ça marche pas, puis ah tiens, j'ai une super idée.
Oui, voilà.
Et en fait, on l'a amélioré, mais comme je disais tout à l'heure, le jeu actuel n'a rien à voir avec le premier proto. Au début, c'était censé être un jeu coop sur mon téléphone, et puis on s'est dit ouais, non, finalement, les contrôles pour ce jeu de tir, ça va pas être pratique. Et puis finalement.
Et l'idée, du coup, elle est venue d'où ?
On a testé plein de petits trucs. Au début, c'était plus un. Alors nous on aime bien faire des mix entre les genres, mais au début c'était une sorte de... comme si on prenait un tower défense, sauf que au lieu de poser des tours, on a toujours des vagues d'ennemis, mais c'est nous qui devons
jouer
sur les vagues de monstres qui arrivent. Donc en fait on a présenté sur Xbox un proto à l'E3 l'année dernière, où c'était ça le proto en fait. Et aujourd'hui, et après on s'est dit on va tester un petit mode free for all, on a trouvé super drôle et en fait c'est devenu le jeu principal.
Okay.
Maintenant on peut rajouter système d'équipe du coup. Mais...
Ouais. Après vous avez la base déjà.
Ouais.
Okay. Et du coup toi ta version finale, tu la considères comme... Enfin là tu l'as sortie ou tu la sors...
On a eu une période de bêta en mars. Mm-hmm. Le jeu est sorti, la version release depuis le mois d'avril. Mm. Mais toutes les deux semaines, il y a un patch, des nouvelles armes, des nouveaux héros, des nouveaux modes de jeu.
Bon, en fait, tu développes ton jeu.
Voilà, en fait, on le fait au fur et à mesure.
Voilà, c'est ça.
Permet de le sortir plus tôt, de tester des trucs. Puis, il y a un autre côté intéressant, c'est que pour les joueurs, le jeu est vivant. Donc, comme tu parlais de l'attention tout à l'heure, le mec il va revenir parce qu'il y a une nouvelle arme, ou il va au moins revenir pour voir s'il y a une nouvelle arme. Et puis, comme on commence aussi un petit peu à créer une communauté, discuter avec les joueurs, il y a plein qui font plein de suggestions. Alors, il faut essayer de caler ça dans le planning, hein. On fait pas tout ce qu'ils nous demandent, et puis c'est pas le truc auquel on a déjà pensé, mais en fait, on a plein d'idées, et on essaie juste de choisir les plus urgentes, les meilleures, celles qui sont pas trop longues. Et effectivement, oui, je pense c'est de l'argent aussi, mais comme on a une base solide, on sait à peu près comment on a le jeu. Pas définitif si tu veux, mais on a le core gameplay, exactement. Et là on est dans une phase de polish où on rajoute on a racheté les in-app assez récemment en fait, on les avait pas avant. Et du coup, mais là on les a juste posés quoi. Maintenant on va travailler un petit peu dessus, faire des offres pour que les joueurs soient un petit peu attirés quand même par l'autre super intéressante. Bon après il n'y a pas beaucoup d'invitations, hein. Il y a des nouveaux modes de jeu, des nouveaux héros, des nouvelles armes. On a rajouté le Discord, c'est assez récent.
Donc
ça les a fait vraiment.
Pour la communauté, c'est vrai que c'est top.
Peut-être qu'un jour, après les gens ils nous demandent des choses, alors parfois c'est réaliste, parfois c'est. Bon voilà, mais quand ils nous demandent on pourrait avoir un power qui fait couleur plus vite, ça. Pourquoi pas par exemple, là, c'est pas un truc.
T'as mis un dash.
On a un dash déjà.
Bon,
et puis après il y a toujours un peu d'équilibrage. Là on s'aperçoit en ce moment, voir un coup de shotgun, il est un petit peu fort. Le décès, quoi.
Un peu. Non, mais après, c'est difficile l'équilibrage.
Les joueurs s'en plaignent pas trop. En fait. C'est une arme qui est difficile à jouer, donc c'est pas très grave qu'elle soit forte.
Si tu rates ton
passif, exactement. Donc, entre une arme où tu fais des dégâts moyens, mais tu touches tout le temps, et une arme où tu perds des gros dégâts, mais tu n'es pas sûr de toucher, ça s'équilibre un petit peu aussi. Donc, t'as les armes plus axées débutants et donc plus joueurs.
Mais ça, on sent aussi cet esprit-là. T'as le bon vieil Uzi qui patauge à tout bout de champ devant,
Sniper qui est hyper puissant, mais si t'as raté, t'as intérêt
si à
barrer en courant parce qu'il est super loin à charger quand même.
Non mais c'est sympa, mais ça c'est... Moi je trouve le point fort c'est ça, c'est l'accessibilité. l'accessibilité de ton jeu. Le mec au bureau, s'il veut, il peut se faire une partie de Squad.
C'est vraiment notre but en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais je t'ai vu, j'ai compris. J'ai bien vu que c'était ça le jeu.
C'est d'une part ce qu'on veut et d'autre part, ça avait pas mal d'avantages pour nous. On surfe un peu en plus sur ça, c'est la grosse mode, hein, tous les jeux.io. C'est un truc qu'on n'a pas forcément anticipé, donc c'est un peu un heureux hasard, même si c'est quand même une stratégie qu'on avait en fait au départ. Mais on pensait même pas que le jeu allait s'appeler .io en fait, mais on s'est dit, ah, c'est un jeu web, on s'entend regarder plein de monde, et puis ça marche bien, on partira soit sur Steam, soit sur mobile éventuellement. Donc voilà, on voulait un jeu qui puisse être vraiment très accessible, tout le monde puisse venir y jouer, qui n'est pas forcément de. Soit pas forcément plus pour les hommes que pour les femmes. Mais après, on a un jeu de tir, donc ça fait peut-être un peu plus aux garçons, mais on a quand même 25% de femmes. Ouais. D'après les analytics, je sais pas à quel point ils sont fiables, mais.
Bah, tu sais, je pense que c'est pas si faux que ça, parce que tu serais étonné de voir le nombre de filles qui jouent à des jeux flash, justement, parce que c'est ça. Elles ont, les filles, elles ont pas trop Steam ou quoi, tu vois, en général, elles jouent sur Facebook et machin, elles ont un clé à jouer sur des trucs comme ça. Candy Crush et tout, enfin, j'ai pas les copines qui jouent à ça, bon, voilà.
Mais voilà. Et alors, du coup, donc accessible, simple, mais aussi simple pour nous, parce qu'on a une petite équipe avec des petits budgets. Alors, on a une esthétique qui plaît bien à la Minecraft, à la Roblox, etc.
C'est vrai.
Pour nous, c'est un énorme avantage, on n'a pas de texture, c'est tout en vertex color, des personnages très cubiques. On est allé dans le simple et en plus ça plaît. Donc
c'est la DA, il y a un cachet.
Donc voilà, on essaye de rester simple autant pour nous que pour les joueurs.
C'est bien, ok. Vous, est-ce que ça vous intéresserait de bosser par exemple dans un gros studio, hein? Si on vous proposait de bosser dans un grand studio, est-ce que ça vous intéresserait? Ça vous assure un salaire, mais vous n'êtes pas forcément satisfait.
Il y a toujours l'histoire de triangle, tu sais, bon salaire, temps libre et. Conditions, plaisir de travail. Alors c'est difficile à trouver, surtout dans le jeu vidéo, mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est de travailler sur des projets finalement comme toi. L'envie de créer ses propres jeux, frustré au boulot.
Ouais.
Et t'as qu'une envie, c'est de faire tes jeux quoi.
Ouais.
Donc d'en partir et essayer de faire ce qui te plaît. Donc travailler dans un gros studio, ça va être compliqué pour moi. Enfin, personnellement, j'ai déjà goûté depuis presque 10 ans. Indépendance, donc ça va être compliqué. Mais rien n'empêche, je travaille dans une grosse équipe pour un petit laps de temps en tant que freelance. Quoi. Les gros projets trop longs, j'y arrive pas. J'ai tellement d'idées en tête que je peux pas m'attarder sur un projet.
Et sinon,
chez Ubi, je descends chez Ubi.
Par
rapport au travail, voilà, c'est ça, mais l'ambiance, voilà, les conditions. Sont quand même très bonnes, enfin elles sont très bonnes par rapport à même des petits studios. Enfin,
ouais.
Voilà, le cadre, etc. Donc il y a quand même des avantages et ça peut convenir à beaucoup de gens, je pense. Voilà. Donc il faut pas. Voilà, je sais que ceux qui partent du oui, enfin, ils sont pas contre, enfin, ils sont contents, on peut avoir toujours un peu le revers de la médaille, mais c'est pas si mal. Enfin, c'est pas pareil. Après, c'est chacun ses envies. Voilà, il y en a qui
c'est plus libre, voilà. C'est dans une grosse boîte, t'es moins libre, t'es plus formaté comme on le disait.
Mais il y en a qui aiment bien être très spécialisé, il y en a qui aiment bien faire que les assises et gérer les shaders et bosser ça toute l'année et faire que des shaders et se casser la tête pour les shaders sur toutes les plateformes. Il y en a qui adorent ça et qui aiment bien la technique. Après, il y en a qui aiment plus polyvalent. Là, c'est un peu plus difficile quand on est dans un gros studio. Les petites boîtes apportent un peu ça quand même. Quand on est dans une petite boîte, on doit faire un petit peu tout. On est en contact avec tout le monde, avec voilà, même le market, etc., qui demande des trucs. Voilà, et quand il y a du boulot, et ben, il faut le faire. Sinon, la boîte coule. Il faut être clair, les petites boîtes ont aussi une fragilité beaucoup plus importante que lui. Tous les programmeurs, tout le monde a été sur un projet qui s'est cassé la gueule dans n'importe quelle boîte, même chez Ubi.
Même les gros studios.
Et voilà, le souci c'est que les gros studios, l'avantage c'est que quand un projet est terminé, ben, on peut se foutre sur un autre projet, alors que les petites boîtes parfois elles meurent.
Elles ont tout mis dedans,
voilà.
Et du coup elles s'est...
Voilà. Donc il y a aussi voilà, une certaine pression et donc s'il y a du boulot, s'il y a des bugs, même si c'est pas ta spécialité, même si c'est un game designer script qui fait du script, et ben, toi t'es codeur C++, c'est pas forcément ton boulot, mais tu vas l'aider parce qu'il faut que la deadline soit réglée, et donc tu vas faire du script, tu sais un peu faire du script, tu vas peut-être pas gérer le gameplay comme il sait faire, mais voilà, c'est ça qui est pas mal aussi dans une petite boîte, c'est qu'on fait beaucoup plus de choses et on peut pas faire pouvoir peut-être du réseau, de shader, un peu de shader, un peu de tout. Ce qui est moins courant sur les gros studios. Donc, voilà. Mais des fois, les gros studios ont leurs avantages et ont des inconvénients, et ça correspond à des gens, à chacun des envies de chacun.
Ok. Il faut avoir envie aussi de sortir d'un studio comme ça, où tu côtoies plein de gens, où tu as finalement des potes pour rester, et au final, tu te retrouves chez toi quasiment tout seul, sans contact, à manger tout seul des fois le midi, etc. Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi la vision d'un jeu indépendant, c'est finalement un jeu qui reflète la personnalité du créateur ou des créateurs. Pour moi, c'est ça. Genre, Out There, finalement, c'est Michael Pfeiffer qui est dans le jeu. C'est son envie, en fait, de voyager, qui se passe, tout ça.
Ça, c'est vrai. Ça, je trouve que ça reflète beaucoup plus directement l'âme, en fait. C'est en ça que... Alors, je vais arriver sur... Je vais débattre sur un truc, je vais voir, ça va être intéressant, mais artistiquement, je trouve que le jeu indépendant, il est beaucoup plus passionnant, puisque c'est justement un individu. Tout sort de sa tête. Alors il s'est peut-être inspiré, mais il est tout seul. Alors que quand tu prends les gros studios et tout, ils font des trucs prévus déjà à la base, ils partent sur un RPG, bon ben 12e Assassin's Creed, donc on repart sur un Open World, enfin ils vont changer apparemment, on va voir. Hein. Mais alors que c'est directement le reflet de l'âme de la personne en fait. Et je trouve, quand tu vois des jeux comme Fez, quand tu vois des jeux comme Braid aussi, mais même des petits jeux, même Rogue Legacy, c'est un roguelike qui est tout petit, tout mignon, tout. Mais ils ont chacun leur identité, simplement. Alors que bizarrement, sur les gros studios, j'ai l'impression que les jeux perdent leur identité. Vous voyez ce que je veux dire?
Ils sont plus dans le consensus, je pense. Alors que les jeux sont plus typés, on va dire, les jeux indés sont plus typés, à mon avis, par rapport au créateur qui veut qu'il y ait un truc absolument qui soit poussé. Dans les gros studios, ça lisse un petit peu, ça lisse plus.
C'est plus fade, ouais.
C'est un poil plus fade.
Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur on fait des trucs qu'on a envie de faire et on ne sait pas si ça va marcher, mais en fait, je pense que les indés, on prend plus de risques. Ouais. Parce qu'on a une idée, on va voir ce qu'elle va donner. Alors que l'éditeur il a juste, l'éditeur ou le gros studio, juste envie d'appliquer une recette qui marche. Ça peut se dire, ah non, je peux tester une nouvelle recette, ça risque de ne pas marcher.
C'est paradoxal au possible quand tu penses que les jeunes studios indés, c'est eux qui prennent le plus de risques. Alors qu'au final, s'ils se cassent la gueule, c'est eux qui vont prendre le plus cher comparé aux studios, gros studios qui sont blindés. Et je veux dire, ils peuvent très bien assurer un échec et ensuite après repartir. Et pourtant, c'est vous qui faites
des... On est obligé aussi de prendre une autre approche. Parce que moi, c'est ce que je veux dire, on va pas se poser en concurrent de GTA.
Non, mais moi, c'est ce que je reproche, c'est qu'ils ne prennent pas de risque en fait.
Oui, c'est vrai.
Et ils ne cherchent pas, c'est vous qui... C'est toi qui as créé un gameplay, ouais. C'est toi qui as créé un vrai jeu, t'es tout seul avec ta femme. Pourquoi les mecs, eux, ils n'essayent pas de créer une petite structure
Ubi essaye de faire ça.
Oui, il essaye de faire ça.
Mais ils n'y arrivent pas du tout. C'est parce que en fait, ils présentent des projets type indé, parce qu'ils savent qu'il y a quand même un marché, il y a des publics. Mais le choix des projets se fait avec le même genre de consensus que les gros jeux Assassin's Creed. Donc forcément, on perd les jeux typés. Et donc c'est pour ça qu'ils y ont du mal et qu'il y a une section, ils n'arrivent pas à sortir de jeu. Parce qu'il faut que ça soit validé par le même circuit classique, on va dire.
Mais voilà, c'est ça le problème.
Alors qu'en fait, il faudrait limite que fassent les jeux, qu'ils aient un budget, qu'ils les sortent, même si la hiérarchie pense que ça ne marche pas, et qu'ils en sortent plein, et en espérer qu'il y en ait un qui fonctionne. C'est un peu le souci, c'est qu'on est dans le secteur indé, c'est un peu ça. Il y a tout le monde qui sort son jeu, et il y a une petite partie qui fonctionne vachement. Il y en a quand même pas mal, il y a une petite partie qui est tout juste rentable et une grosse partie qui perd de l'argent. Et ça, voilà, quand on est Ubi, on peut faire un Assassin's Creed, il faut qu'il soit rentable. Et quand il y a même des petits jeux, ils vont se dire, est-ce qu'il y a un public, il y a l'étude de marché, etc., qui vont entrer dans le jeu, et qui n'est pas forcément mauvais sur des gros projets, parce qu'on a beaucoup d'argent et donc il faut minimiser les risques. Mais justement, l'intérêt, c'est de prendre beaucoup de risques, faire plein de petits projets à gros risques, et espérer qu'il y en a un qui fonctionne. Et ça, ils ne savent pas encore faire.
Moi, ils essaient.
Hein. Ils essaient. Voilà, ils essaient parce qu'en fait, ils savent qu'il y a un marché. Il y a un marché, il y a des niches qu'ils n'arrivent pas à choper, et une concurrence, nous, mais ils n'y arrivent pas parce que c'est ces marchés de niches. Il faut une certaine process qu'ils ne maîtrisent pas encore. Peut-être qu'ils vont le maîtriser, mais ils sortent, je ne sais plus, de Life of Shine. Après, donc, ils ont ouais, sorti voilà. des jeux, voilà.
Même Mémoire d'un soldat inconnu, je pense. Mémoire d'un soldat inconnu.
Peut-être, ouais, ouais.
Le soldat inconnu. Non mais c'est vrai, après c'est vrai, c'est bizarre de voir un... Mais bon, c'est peut-être pas le bon exemple aussi, parce que ouais, c'est vrai, ouais. ils essaient quand même.
Ouais, ils essaient, voilà, c'est déjà pas
mal. On peut pas leur jeter la pierre.
Voilà. C'est déjà pas mal.
C'est vrai, mais...
C'est
vrai, c'est
vrai. C'est pour ça, voilà, quand t'es un dé, on prend un risque. C'est une aventure très personnelle, parce que on, même si on fait ça pendant le chômage, etc., on a moins de filets de sécurité. Donc voilà, on ne veut pas faire un, on veut pas prendre un risque pour quelque chose qui ne nous tient pas à cœur.
C'est ça. Il y a vraiment un attachement émotionnel
au jeu. Que,
c'est votre petit bébé.
J'allais dire, l'attachement émotionnel, il joue sur le moral aussi. Si, enfin, souvent, moi, enfin, je vois, j'observe, il y a au début de la création du jeu, on est très excité. Puis il y a un milieu, il y a un plateau où on est plutôt déprimé, on dit oh non, le jeu va jamais marcher. Et puis finalement, ça remonte et on dit oh, il va pas être si mal à force de le travailler, de voir les joueurs. On dit il va pas être si mal et on est content. Et ça, voilà, c'est un ascenseur émotionnel et c'est parce que notre jeu est très, très sort du cœur. Quoi. Mm. Donc. Et voilà, il nous touche. Notre jeu, c'est un peu une part de nous.
C'est ça, ça sort du cœur. Et on sent ça, tu vois. C'est... J'avais envie de parler de quelqu'un d'autre, mais pareil, mais bon. C'est les jeux indés, moi, ce qui me fait vibrer, c'est ça. C'est qu'il y a une âme, on sent l'empathie de la personne derrière. Alors que dans tout... Bah ouais, les jeux qu'on nous sort aujourd'hui, c'est du blockbuster, en fait.
Ouais, ouais.
C'est du blockbuster des jeux vidéo, quand même. Après, il y en a des pas mauvais.
Voilà, c'est toujours, c'est comme un popcorn movie, je veux dire, c'est sympathique, ça distrait et c'est pas forcément mal. Voilà, si on aime un moment de la journée ou autre, on aime bien voir un popcorn movie, bah, pas trop réfléchir. Et à d'autres moments, on a envie de faire un truc un peu qui nous challenge un peu plus amusant. Et chaque jeu remplit sa tâche, on va dire, la place pour tout le monde.
Il y a un clivage qui commence à se créer justement entre les gros blockbusters et les jeux indés. T'as vraiment Ubisoft, Konami qui sont basés à fond sur la rétention. Mmh. La rétention, c'est vraiment leur mot d'ordre où la vie des jeux, comment on appelle ça, par abonnement. Au Japon, ça se fait.
Oui,
mais ils font que ça finalement.
Bien sûr. Tu parles des RPG, tout ça
mensuel.
On appelle ça
les abonnements mensuels. Bah en fait, tu payes sans arrêt.
Comme World of Warcraft, tu
vois.
T'es obligé
de jeux saisonniers, à la Rainbow Six Siege. Finalement, tu restes sur le jeu, il y a beaucoup de rétention et tu
les DLC, payer tout ça,
tout le temps.
Mais ça, c'est le gros problème de toute façon.
Non, c'est pas les DLC. Rétention pour penser gameplay, si tu veux. Enfin, pour moi, c'est ça.
Vous imaginez, vous faire des DLC dans le jeu?
Ça pourrait marcher.
Bah oui.
Non, mais ouais, DLC, moi, c'est pas.
Parce que vous, au DLC, vous les faites à 1 euro ou 2, tu vois.
Attends, mais moi, on n'y pense pas à la base, les DLC. On le fait, puis au milieu ou à la fin. Putain, mais en fait, ça serait bien de rajouter ça.
Ça, c'est la plus grande blague. C'est la plus grande blague de l'histoire du vidéo, je trouve, du monde moderne. C'est ça. C'est qu'on est obligé de racheter. Parce qu'il y a une année qui est passée en fait, et parce que il faut bien faire bouffer ces gens qui sont 40 ou 50 à bosser au studio et qui ont les contraintes patronales. Mais après, le truc c'est que nous on est là, mais attendez, mais le jeu je l'ai déjà acheté, pourquoi je dois le repayer? Au final j'ai le même jeu qu'avant. Oui, mais il y a les 3 cartes de plus. Mais je vais pas repayer le même prix du jeu au même prix. Le statut premium, c'est ça qui est. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est du premium. J'achète le statut premium, donc je rachète le prix du jeu. Tout ça pour pouvoir jouer au jeu, mais avoir les cartes qui sont pas disponibles.
Non, mais attends. Au Japon, c'est que ça.
C'est... Oui, je sais.
Les jeux payants sur mobile, ça n'existe pas.
Et ce qui est bizarre, c'est en fait, tu sais pourquoi le problème, moi je pense, c'est que les gens achètent. C'est ça le problème.
Oui, tout ça, c'est le consommateur. Ça,
le DLC, il ne marcherait pas si les gens achètent.
Il y a aussi des comment dire,
mais ils veulent jouer au jeu.
Une recherche du modèle économique qui va marcher et qui se fait parfois au détriment du gameplay en fait. Parce que nous on s'en est rendu compte, hein, c'était pas vraiment facile sur mobile de faire un jeu payant, du coup on gratuit et forcément ça se tape en plus et après t'espères qu'il y a des gens qui achètent, mais au final j'aurais tendance à penser que c'est plus facile après qui arrive autrement. Bref, peu importe, mais du coup si t'es parti dans un modèle économique soit un abonnement, soit des in-app purchase, c'est là que justement la rétention est aussi importante. Parce que si t'as pas de rétention, les gens ils reviennent pas pour acheter, ils reviennent pas pour payer l'abonnement. Au final, t'achètes un jeu complet une fois pour toutes. Je sais pas, un jeu. Si je prends le jeu de Sylvain, point and click, tu l'as fini. Bon, en général, t'as pas une grosse replay value. Mais c'est pas grave, ton jeu, tu l'as acheté, tout le monde est content. Le mec a créé le jeu et le joueur.
Oui, mais après, il y a la ludothèque, tu vois. Franchement, je suis sûr que si on fait un débat, enfin, si on fait un sondage, je sais pas, avec tous les gamers qu'on peut avoir, je pense que plus de la moitié te diront qu'ils préfèrent avoir un jeu fini. Bien c'est sûr. Un produit fini. Enfin, je veux dire, quand tu sais, comme dans en fait, quoi, tu fais un produit, tu le vends en kit, ton produit.
Là où je veux en venir, c'est que là où c'est encore plus pervers, c'est que ton modèle économique va forcément affecter ton gameplay. Parce que tu vas pas penser de la même manière un jeu avec des in-app, un jeu avec un abonnement ou un jeu.
Mais toi, ça marche bien parce que il y a les coffres, c'est à l'Overwatch, tu gagnes un niveau, j'ai un coffre, tout
ton. Mais oui, mais ce système de coffre qui est très sympa, hein, niveau gameplay, on n'en aurait peut-être pas eu besoin si on était payant. Oui, DDT, bon, bah voilà, t'as un certain nombre de héros comme Delta ou LOL, encore
un peu plus. Non, mais c'est des exemples et des exceptions qui confirment un peu la règle, mais c'est vrai.
Oui,
c'est vrai que.
Non, mais je peux pas te dire Overwatch puisqu'ils ont aussi des coffres.
Mais en gros. Ils font tout, ils payent le jeu, ils te font des
achats de game aussi. Ils te vendent que du cosmétique, donc ça n'influe pas trop le gameplay malgré tout.
Oui, heureusement, mais tout le monde se tourne vers ça.
En tout cas, voilà, ton gameplay est vraiment conditionné par ton modèle économique. Et je pense effectivement, par exemple, si je prends l'exemple des mobiles, si tu décides de... Enfin, c'est quand même des modèles économiques qui, je pense, qui marchent mieux en ce moment. Si tu prends Pokémon,
ça marche bien,
je crois, etc.
Et après, on parle de pay-to-win aussi.
Oui, mais bon, voilà. Mais si le jeu il avait été payant dès le début, il n'aurait peut-être pas eu le succès qu'il a aujourd'hui. Oui. Du coup, il ne serait pas pay-to-win, il aurait pu continuer direct. Et bon, en fait, le gameplay, ce ne serait pas du tout le même jeu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et tu aurais moins ces grosses problématiques de rétention. Alors, si tu es un gros truc multijoueur, t'as quand même besoin de rétention pour que les gens aient des adversaires, évidemment. Mais en fait, voilà, t'as toute une stratégie commerciale qui va dicter aussi ton gameplay.
J'ai apporté un objet qui représentait le jeu. C'est un petit un contrat qu'on a envoyé aux gens qui avaient participé au Kickstarter qui avaient pris un t-shirt. Alors c'est un contrat voilà, avec un sceau qu'on peut ouvrir. C'est le contrat qu'on doit signer dans le jeu. Normalement c'est un peu comme un contrat qu'on signe avec le diable. Et donc il y a les règles qu'on doit respecter dans le jeu, dans la manière dont toi tu dois tuer les victimes en respectant les règles, il faut bien les tuer une par une, voilà, pas tuer de chien, etc. qui rapporte plus ou moins de points avec tous les détails. Et j'avais même donné une fiole avec une petite plume noire pour que la personne puisse signer le contrat s'il a envie. Elle le signe pareil dans le jeu, mais ça c'est la version physique qu'on a donnée avec ceux qui avaient acheté le t-shirt au Kickstarter.